Ici Téhéran, voix de la République islamique d'Iran.
Au nom de Dieu, le très miséricordieux, le tout miséricordieux. Recueillons-nous pour méditer sur les versets 1 à 5 de la sainte sourate Qadr. Nous vous en présenterons tout d'abord la lecture chantée et ensuite la traduction.
بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر وذق الله العلي العظيم.
Oui, nous avons fait descendre ceci, la nuit de la détermination. Et qui te dira ce qu'est la nuit de la détermination? La nuit de la détermination est meilleure que 1000 mois. Durant celle-ci descendent les anges, ainsi que l'Esprit, par permission de leur Seigneur, avec chaque commandement une paix, cela jusqu'à l'apparition de l'aube.
Chers auditeurs, bienvenue sur les ondes de la radio francophone iranienne. Vous pouvez nous capter tous les soirs de 18h20 à 19h20, temps universel, sur ondes courtes, dans la bande des 49 mètres, sur la fréquence de 6135 kHz, en Europe et en Afrique du Nord. À Téhéran, nos auditeurs peuvent nous entendre à la même heure sur FM, dans la fréquence de 99,5 MHz. Vous pouvez également nous capter sur les satellites Hotbird et Eutelsat 3. بسم الله الرحمن الرحیم. Au nom de Dieu clément et miséricordieux. Chers auditeurs, bonjour et bienvenue sur les ondes de la radio francophone iranienne. Nous sommes le jeudi 12 Esfand, 1400 du calendrier iranien, 3 mars 2022. Aujourd'hui, nous allons vous présenter notre bulletin d'information suivi d'un commentaire politique. Un sénateur américain incite au terrorisme en encourageant Israël à assassiner des scientifiques iraniens. Huitième jour de l'opération de l'armée russe en Ukraine. Le chef de l'AIEA doit se rendre en Iran ce samedi. Des milliers de personnes ont participé aux funérailles d'un Palestinien tué par les soldats israéliens en Cisjordanie. C'était les principaux titres de l'actualité. Voici le journal. L'opération militaire de Moscou en Ukraine en est à son huitième jour, les forces russes progressant davantage dans le pays. Le maire de Kherson a confirmé que les troupes russes contrôlent désormais la ville portuaire. C'est le premier centre urbain important à tomber depuis que Moscou a lancé son attaque. Kherson est stratégiquement important car il relie la Crimée au sud du Donbass à l'est. Les forces russes ont également frappé un centre de radio-télévision à Kiev et pris la ville de Balaklia, près de la capitale. Une grande opération est également en cours à Kharkov, le deuxième grand centre urbain de l'Ukraine. Selon les secouristes, 43 civils y ont été tués au cours des dernières 24 heures. L'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe affirme qu'un membre ukrainien de son équipe a également été tué à Kharkov. Moscou affirme que ses troupes ont encerclé Mariupol sur la côte de la mer d'Azov. Entre-temps, le président ukrainien a salué la résilience et la résistance de son peuple. Suite à l'adoption d'une résolution à l'Assemblée générale des Nations unies sur la crise ukrainienne et l'opération militaire russe contre Kiev, le représentant d'Iran auprès des Nations unies a déclaré que la résolution soumise à l'Assemblée générale manquait de l'élément de neutralité et de mécanismes réalistes pour résoudre le problème par des moyens pacifiques et que tous les membres de l'ONU n'ont pas eu l'occasion de contribuer à la rédaction de cette résolution. S'exprimant à l'issue d'un vote à l'ONU sur la crise ukrainienne, Majid Tartaravanchi, ambassadeur d'Iran auprès des Nations unies, a déclaré que la République islamique d'Iran est vivement préoccupée suit attentivement le conflit en cours entre la Russie et l'Ukraine. Il a insisté à cette occasion sur la position de principe de l'Iran concernant la nécessité d'un règlement pacifique des différends conformément au droit international. Le directeur général de l'Agence internationale de l'énergie atomique doit arriver à Téhéran samedi dans le cadre d'une visite qui viserait à concevoir une feuille de route pour résoudre les problèmes de garantie entre l'Iran et l'agence viennoise. Raphaël Grossi se rendra en Iran pour résoudre certains désaccords sur le programme nucléaire iranien et d'autres questions de garantie entre l'Iran et l'Agence internationale de l'énergie atomique. Il doit rencontrer à Téhéran le chef de l'Organisation iranienne de l'énergie atomique, Mohammad Eslami. Le secrétaire du Conseil suprême de la sécurité nationale iranienne, Ali Shamkhani, a déclaré que la stratégie de résistance active de la République islamique d'Iran avait rendu inefficace la politique de pression maximale de l'ancien président des États-Unis, Donald Trump. Il a ajouté dans un tweet que même l'administration américaine actuelle a reconnu que la politique de Trump était un échec. Shamkhani a noté que si les pourparlers en cours à Vienne n'aboutissent pas à un bon accord, ce sera un échec pour le gouvernement américain actuel, car cela signifiera qu'il n'a pas saisi l'opportunité diplomatique qui lui a été offerte. Les Palestiniens ont organisé des funérailles pour un homme qui a été abattu par les forces israéliennes en Cisjordanie occupée mardi. Des centaines de personnes ont assisté à la cérémonie qui s'est déroulée dans le camp de réfugiés d'Aroub, au nord de la ville d'Al-Khalil. Les forces israéliennes auraient attaqué les personnes en deuil avec des balles en caoutchouc et des grenades lacrymogènes, provoquant des dizaines de cas de suffocation. Ammar Shafiq Abu Afifa a été abattu près de la ville de Bethléem. Les forces israéliennes ont refusé pendant plusieurs heures de remettre son corps aux Palestiniens. Abu Afifa était le troisième Palestinien à être tué dans des raids séparés des forces israéliennes mardi. Au Danemark, un tribunal a condamné trois dirigeants d'un groupe terroriste anti-iranien à des peines allant jusqu'à 8 ans de prison pour espionnage. Habib Yabour Kabi, son frère Tamim et son gendre appartiennent au soi-disant mouvement de lutte arabe pour la libération d'Ahwaz. Le mois dernier, la justice danoise les a reconnus coupables d'avoir créé une unité d'espionnage pour un service de renseignement de l'Arabie saoudite. Ils ont également été reconnus coupables de promotion du terrorisme. En septembre 2018, le groupe terroriste a revendiqué l'attentat contre un défilé militaire à Ahwaz qui a fait 25 morts. La République islamique d'Iran a déclaré dans le passé que le groupe bénéficiait du soutien de l'Arabie saoudite. La République islamique d'Iran appelle une fois de plus à la libération des avoirs gelés de l'Afghanistan, affirmant que la relance économique et les moyens de subsistance des habitants de ce pays déchiré par la guerre ne doivent pas être politisés. S'exprimant lors d'une réunion du Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies sur l'Afghanistan, l'ambassadrice adjointe de la République islamique d'Iran, Mme Zahra Ershadi, a appelé à des actions urgentes pour empêcher l'effondrement de l'économie de l'Afghanistan. L'ambassadrice adjointe de l'Iran auprès des Nations Unies, Zahra Ershadi, a noté que près de la moitié de la population afghane avait un besoin urgent d'aide humanitaire. La diplomate iranienne a également exprimé de profondes inquiétudes quant aux conséquences catastrophiques d'une telle situation pour la sécurité et la stabilité de l'ensemble de la région. La diplomate iranienne, Mme Zahra Ershadi, a averti que si la situation afghane n'est pas traitée efficacement, elle pourrait conduire à un afflux massif de réfugiés vers les pays voisins ou encore plus loin. Les États-Unis ont gelé tous les avoirs afghans après la prise de contrôle du pays par les talibans au mois d'août de l'année dernière. Le peuple afghan a réagi à cette décision américaine par des manifestations protestataires et s'est prononcé contre la décision de l'administration Joe Biden. La Banque centrale afghane a aussi critiqué sévèrement le projet des États-Unis de saisir la moitié des 7 milliards de dollars de fonds afghans qu'elle détient. Chers amis auditeurs, c'est la fin de notre journal. Restez à l'écoute de notre commentaire politique. La République islamique d'Iran a fermement dénoncé les récents commentaires d'un sénateur américain qui a encouragé le régime israélien à assassiner davantage de scientifiques iraniens, affirmant que ses propos constituent une incitation au terrorisme, ce qui est en réalité une violation flagrante du droit international. Lors d'une visite en Palestine occupée à la mi-février, le sénateur américain Lindsey Graham a affirmé que le peuple juif ne peut pas vivre avec un Iran nucléaire et qu'il n'avait aucun doute qu'Israël fera ce qu'il doit faire contre le programme nucléaire iranien. De nombreux scientifiques iraniens ont eu beaucoup d'accidents. Et nous nous attendons à ce que d'autres accidents se produisent, a-t-il déclaré, faisant référence aux assassinats d'un certain nombre de scientifiques iraniens lors d'attaques terroristes largement attribuées au régime sioniste. Le sénateur Graham a fait ses remarques au milieu des pourparlers à Vienne pour relancer l'accord avec l'Iran abandonné par les États-Unis ou le plan global d'action conjoint auquel les législateurs américains bellicistes, dont Graham lui-même et le régime de Tel Aviv, s'opposent farouchement. Dans une lettre soumise mardi au Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies, la mission permanente de l'Iran auprès de cette organisation a déclaré que les propos étaient dégoûtants et haineux et constituaient un feu vert pour que le régime israélien poursuive ses attaques terroristes contre les scientifiques de la République islamique d'Iran. Les commentaires constituent une violation flagrante des obligations internationales des États-Unis, en particulier celles découlant des résolutions de l'Organisation des Nations Unies qui interdisent aux États d'inciter à des attaques terroristes et les exhorte à s'abstenir de soutenir des activités terroristes, lit-on dans la lettre de la mission diplomatique de l'Iran à New York. Ce texte a également souligné la longue histoire des actes de sabotage israélien contre les activités nucléaires pacifiques de la République islamique d'Iran, exhortant la communauté internationale, le Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies en particulier, a condamné fermement les actes de provocation et l'encouragement de telles activités terroristes. La République islamique d'Iran se réserve le droit de prendre toutes les mesures nécessaires conformément au droit international, a ajouté la mission iranienne auprès de l'ONU.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette émission Le Débat. Dans le cadre de l'émission d'aujourd'hui, nous allons en fait aborder en Ukraine, entre la Russie et l'Ukraine, et également entre la Russie d'une part et le camp occidental d'autre part. L'Iran s'oppose à la guerre où que ce soit, en Ukraine, en Irak, en Syrie et ailleurs. C'est la position officielle de Téhéran qui a été affichée par le leader de la révolution islamique, l'ayatollah Khamenei. En Asie de l'Ouest, a affirmé l'ayatollah Khamenei, souvenez-vous de la somme de crises que les Américains ont générées, où ils ont fini par créer Daesh, leur progéniture, et qu'ils ont filmé en train de décapiter les gens, de brûler de vifs, de les noyer. Plus ils ont diffusé des atroces images. Sans crise, a martelé le leader de la révolution islamique. Les États-Unis ne pourraient vendre des armes et ceci est leur sort indéfectible. Cette crise en Ukraine, a-t-il précisé, est l'une des émanations de cette même politique foncièrement belliciste. L'Ukraine en est aujourd'hui la victime. Ce sont les États-Unis qui ont poussé l'Ukraine au bord du près de Sipis en s'ingérant dans ses affaires intérieures, en y provoquant des troubles sociaux, des révolutions en velours ou colorées. Et on se rappelle comment les sénateurs des Américains s'affichaient en tête des cortèges. Il va sans dire, a fait remarquer le leader de la révolution islamique, que l'Iran s'oppose foncièrement à la guerre, où qu'il soit. Et ceci est un principe indéfectible de notre politique étrangère. Dans le même temps, il y a eu ce discours du secrétaire général du Hezbollah libanais, Seyyed Hassan Nasrallah. Seyyed Hassan Nasrallah qui a en fait évoqué ces déclarations du leader de la révolution islamique et qu'il a confirmé d'ailleurs en réitérant, je cite, que Washington a tout fait pour conduire le déroulement des choses vers la situation dont on est témoin aujourd'hui. Il sera prêt à tout essayer encore pour compliquer davantage la donne. Toujours est-il que ceux qui ont mis de l'espoir dans des politiques des Américains, ceux qui leur ont fait confiance, ont une grande leçon à tirer de ceux qui est en train de se produire aujourd'hui, a-t-il précisé encore. On va vous en parler dans le cadre de l'émission d'aujourd'hui avec deux invités. J'ai le plaisir d'avoir avec moi pour cette émission au téléphone depuis Toulouse un analyste politique et spécialiste des questions internationales, Pierre Dortillier. Monsieur Dortillier, bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation.
Bonjour, cher monsieur Norostine, et bonjour à tous vos auditeurs et bien sûr à votre invité.
Et l'autre invité de l'émission d'aujourd'hui, M. Dortillier, c'est un analyste politique et spécialiste des questions internationales, M. Bernard Cornu. M. Cornu, merci infiniment d'avoir accepté notre invitation.
Bonjour.
Monsieur Corny, je viens de lancer le sujet de cette guerre en Ukraine, ces réactions, si vous voulez, à cette guerre. Quelle évaluation portez-vous en fait sur ce qui se passe actuellement en Ukraine, s'il vous plaît, également, si c'est possible, à mon sur cette position officielle de Téhéran, s'il vous plaît.
Voilà, je suis aussi très triste de cette nouvelle guerre qui va faire des victimes, qui va faire des dépenses. Dans lequel l'Europe réagit en mettant un peu d'huile sur le feu, en fournissant des armes. Bien sûr, c'est positif d'accueillir les réfugiés, les déplacés temporaires, mais l'Europe devrait surtout mettre l'accent sur des négociations, sur des positions indépendantes de l'OTAN et des États-Unis. Et l'Europe aurait dû convaincre les États-Unis de répondre positivement à la demande de Poutine de s'abstenir, que l'OTAN s'abstienne de tenter ou d'envisager l'entrée de l'Ukraine dans l'OTAN, suite aux progrès depuis deux décennies des pays membres de l'OTAN vers l'Est, donc aux frontières de la Russie. Voilà, c'est l'essentiel que je veux dire. Je veux dire aussi que la plupart des commentateurs français, des médias, ont omis de reproduire une phrase essentielle du discours de M. Poutine, qui était agacé par la non-réponse positive de l'OTAN et de l'Europe, où donc M. Poutine a évoqué tous ses précédents de la guerre en Yougoslavie pour détruire la Yougoslavie, et ensuite de la guerre en Irak illégale en 2003, complètement illégale, à l'époque refusée par l'essentiel de l'Europe, et de la guerre en Libye qui a été provoquée, hélas, par la France et le Royaume-Uni sur de mauvais prétextes, au lieu de pousser à des négociations sur ce sujet de géopolitique. L'Europe a des positions qui ne sont pas positives.
Et là, M. Cornut, si je vous ai bien suivi, vous adhérez à cette politique, si vous voulez, de Téhéran, qui consiste à dire que voilà, il faut s'opposer à la guerre ou qu'il produit, mais il faut également s'attaquer, si vous voulez, aux origines, si vous voulez, du problème. Et s'agissant, si vous voulez, de l'Ukraine, on dit que voilà, le problème vient également de ces agissements de l'OTAN, de ces ingérences de l'OTAN et des pays occidentaux dans les affaires intérieures d'autres pays, M. Cornu.
Tout à fait, tout à fait. Non seulement des agissements intérieurs, mais des agissements secrets pour changer des régimes. C'était un vieux plan américain des années 90 et 2000 de faire changer plusieurs régimes qui ne leur convenaient pas. Et il est avéré qu'ils ont financé, souvent en collusion avec les pays arabes pétroliers autocratiques de la péninsule arabique, pour financer des déstabilisations, financer des mercenaires venus de très nombreux pays pour déstabiliser des pays entiers afin de répondre à cet objectif de changement de régime dans les régions, notamment les pays qui s'opposaient encore à la mainmise de l'État israélien sur toute la Palestine historique et mandataire.
Monsieur Dortiguier, vous venez d'entendre les explications de Monsieur Cornu. Permettez-moi également dire cela. Il y a ceux qui disent que voilà, il faut s'opposer à la guerre, et cette guerre contre l'Ukraine est quand même une violation de la souveraineté d'un autre pays. C'est en fait de l'avis de certains analystes. Il y a ceux qui disent que voilà, c'est vrai, mais quand même le problème émane, si vous voulez, de cette politique belliciste de l'OTAN et des États-Unis qui cherchent, si vous voulez, à procéder à des actes de provocation contre la Russie. Votre analyse, s'il vous plaît.
Oui, en effet, M. Narostine. Cette guerre est une... comment dire ça en un mot, a été, disons, aurait pu être évitée, bien sûr. Et on a jeté, disons, c'est le tort des États-Unis d'Amérique, évidemment, de ce qu'on appelle l'Occident, entre guillemets, d'avoir versé de l'huile sur le feu. Alors, verser de l'huile, ça permet d'accroître le feu. Mais il y a également un déséquilibre fondamental, c'est-à-dire que beaucoup de gens ont, à l'intérieur de l'Ukraine, joué, si je puis dire, aussi à un double jeu. C'est-à-dire ont défendu les intérêts populaires, puisque l'Ukraine, contrairement à ce qu'on dit, comme tout comme la langue ukrainienne, est tout à fait distincte, ça ne veut pas dire opposée, mais distincte de la Russie. Vous savez que jusqu'au début du XVIIIe siècle, l'Ukraine était sur les cartes de géographie représentée, j'ai encore une carte anglaise sous les yeux, comme appartenant, étant influencée par l'Empire ottoman, vous savez, avec une grande influence tatare, etc. Bien, ceci, bien sûr, est tout à fait ignoré on peut dire de l'opinion publique. Ce qu'il y a, c'est que de la part des Russes, autour de M. Poutine, il y a également des bouts de feu. C'est-à-dire qu'il y a une alliance entre certains groupes aux États-Unis et à l'intérieur de la Russie, je ne peux pas préciser, qui ont intérêt à ce que les événements suivent cette voie, c'est-à-dire à ce qu'il y ait une sorte de guerre constante, disons, pas de guerre froide, mais d'affrontement, voyez-vous. Je n'en veux pour preuve que le fait que tout le processus législatif à la Douma russe, qui a donné une assise, disons, légale, on pourrait dire républicaine, enfin, à l'action des troupes russes, disons, à l'action de M. Poutine, a été présentée, il faut le savoir, par un petit parti dont vous connaissez le nom, bien sûr. C'est le Parti communiste. Le Parti communiste qui existe, qui est le Parti communiste donc, de la Fédération de Russie. Alors, en ce sens, on peut dire qu'il y a des forces à l'intérieur même de la Russie, voyez-vous, qui ont intérêt à, dévier la Russie d'une politique nationale et pour pouvoir, en entente avec les Américains, bien sûr, en collusion, même objective, pour pouvoir maintenir un foyer, disons, de tension. Je dois dire que l'attitude israélienne à ce domaine, je veux dire, de l'État d'Israël, est très caractéristique. Vous avez, par exemple, des interdictions qui ont été faites et obtenues de la part d'Israël aux États-Unis. Je dis bien interdiction demandée par Israël aux États-Unis de fournir à l'État ukrainien, comme aux États baltes, par exemple, ce qu'on appelle des batteries qui forment le dôme de fer, voyez-vous. Bien. Alors ceci, il y a un double jeu. C'est ça.
Et saillissant, M. Dortiguet, saillissant de ce double jeu auquel vous faites allusion, le leader de la révolution islamique aussi y a fait des allusions en disant que voilà, même c'est Hassan Nasrallah, secrétaire général du Hezbollah libanais, y a fait des allusions qu'en quoi il faut laisser de côté, si vous voulez, ce double standard, ce double jeu, cette politique dite de poids, de mesure. Par exemple, le leader de la révolution islamique a dit que voilà, nous opposons à la guerre qu'il soit, et ceci est un principe irréversible de notre politique. Là, je cite le leader de la révolution islamique: que font les Américains en Afghanistan, en Syrie ou en Irak? Au nom de qui et quoi se permettent-ils de piller le pétrole irakien? Pourquoi s'accaparent-ils des avoirs, si vous voulez, des Afghans? Pourquoi défendent-ils les crimes constants des sionistes dans la région? Cette politique de poids de mesure, ce double jeu, est quand même dénoncé, condamné du côté de Téhéran et de plusieurs autres pays, de personnalités, M. Dortiguet.
Oui, et avec juste raison. Je dirais même que, je citerai, cela peut vous surprendre, mais un homme, pas un homme politique, mais un philosophe fort connu chez nous en Europe, qui est Martin Heidegger, qui a parlé de cela dans un cours qu'il a fait en 1940, sur ce qu'il appelle la politique des puissances. C'est-à-dire, cette politique de puissance consiste à interdire à autrui ce que l'on fait soi-même, c'est-à-dire à se réclamer des droits de l'homme, voyez-vous, pour pouvoir condamner ce que fait autrui, mais en fait, ne se réserver pour soi-même, bien sûr, d'être au-dessus des partis. Heidegger donnait comme exemple l'attaque de la flotte française, par exemple, Marcel Kébir, une flotte désarmée, etc. Et ceci est constant dans ce qu'on appelle, dans la période qu'on appelle le nihilisme européen, enfin ça c'est une chose, c'est-à-dire qu'on accepte les valeurs pour soi, mais on les nie à autrui. Voyez-vous ? C'est-à-dire que, voyez-vous, c'est un langage, comme on dit, à double standard, voyez-vous ? Ça, c'est une mauvaise foi. Voyez, et ceci est, bien sûr, le propre des, en particulier des Américains, puisque les Américains sont à la tête, disons aujourd'hui, de ce conglomérat qu'on pourrait appeler capitaliste, etc. Mais ils ont, à mon avis, voulu entraîner la Russie dans un piège. Vous voyez, et à travers la Russie, bien sûr, tous ceux qui sont autour d'elle, pour déconsidérer, disons, les pays qui sont autour d'elle. Et je crois que j'ai eu une parole du chancelier d'Allemagne aujourd'hui, donc qui est M. Olaf Scholz, qui dit nous sommes rentrés dans une nouvelle ère. Eh bien, cette ère en question, c'est une ère de préparation, disons, de tension continue, qui sera présentée comme un danger permanent de Troisième Guerre mondiale. C'est-à-dire que nous allons vivre, je crois, c'est en fait objectif, vous voyez, derrière ce spectre, vous voyez, et l'opinion publique sera désemparée, véritablement désemparée. Je reconnais, par exemple, que M. Poutine a dit des choses qui étaient justes. Par exemple, je citerai un discours qu'il a prononcé en 2017 à Valdaï au cours d'une conférence en disant que l'Occident avait perdu ses valeurs chrétiennes, etc. etc. Bien. Et d'autre part, voyez-vous, il y a les peuples d'Ukraine, comme ceux de Pologne aujourd'hui, comme ceux de Hongrie que je connais, craignent qu'il y ait une résurgence de la politique soviétique. Voyez-vous, et tout ceci a été organisé par des trucages. Les gens ne connaissent pas le fond des choses, voyez-vous. Et alors, on cite, je reconnais que là, c'est une erreur de langage. On vous parle de la dénazification de l'Ukraine. Je peux vous dire que ces fameux nazis ukrainiens, si je vous donnais le nom de leur directeur, qui est le chef de l'équipe d'ailleurs de football de Kiev, eh bien, évidemment, vous le verriez plus près de Tel Aviv que de Londres, voyez-vous, que de Paris. Oui, ça, c'est vraiment... Je vous assure qu'on vit dans une période de mensonges, de flou, et que le but est évidemment de développer une course aux armements, et cette course aux armements a été bien marquée par le fait que l'Allemagne, par exemple, a décidé de se réarmer. Ça, c'est un phénomène qui était inimaginable depuis la
Monsieur Dartiguet, permettez-moi d'avoir en fait l'approbation de M. Cornu également sur ce point que venait en fait d'évoquer tout à l'heure. L'objectif en est-il, M. Cornu, comme l'a dit tout à l'heure M. Dertiguet, de, si vous voulez, de susciter, de provoquer cette course aux armements, s'il vous plaît?
C'est sûr que la politique américaine est très influencée par les lobbies de l'armement et qui sont financés par un énorme déficit budgétaire américain, donc avec le consentement passif du reste du monde qui utilise toujours le dollar pour les transactions sur le pétrole et financière. C'est une chose. Sur la deuxième cause de ce déclenchement de ces guerres, c'était, vous avez évoqué, disons, des combats et des provocations dans les parties est, donc russophones, les oblasts de Luhansk et de Donetsk. Je ne suis pas exactement sur le terrain pour vérifier, mais il est sûr que depuis 2014, les combats perduraient dans cette région-là, donc au détriment des populations civiles, parce que le nouveau président ukrainien n'a pas du tout avancé pour l'appliquer les accords de Minsk qui prévoyaient une réforme constitutionnelle pour avoir une certaine régionalisation de la constitution en Ukraine, afin que cette partie russophone ait droit à une certaine autonomie de ses provinces pour respecter effectivement ses traditions plutôt russophones. Voilà. Et que le président ukrainien n'ayant pas du tout avancé sur des accords de Minsk, sous prétexte de demander un désarmement préalable des mouvements d'opposition installés dans cette partie est de l'Ukraine, la situation est bloquée et ni l'Allemagne ni la France n'ont fait l'effort de faire avancer cette réforme constitutionnelle. Voilà la source des problèmes, c'est une certaine passivité de l'Allemagne et de la France qui ne sont pas poussées à faire pacifier cette région, à trouver des solutions pacifiques, constitutionnelles, pour résoudre le conflit à l'intérieur de l'Ukraine. Je pense que si la France et l'Allemagne avaient beaucoup plus poussé à l'application stricte et séquencée des accords de Minsk, on n'aurait pas eu cette dégradation de la situation dans ces parties est de l'Ukraine. Et ça aurait été un prétexte de moins. Lui-même l'a dit d'ailleurs qu'il est frustré que l'application des accords de Minsk n'est pas à la faute de l'autorité, disons, au pouvoir, du gouvernement au pouvoir en Ukraine.
Monsieur Dortiguet, vous l'avez dit tout à l'heure, comme quoi, en fait, selon vous, il y a ceux aux États-Unis, en fait, qui ne souhaitent pas la fin de cette guerre en Ukraine, de cette crise entre Kiev et Moscou, et le leader de la révolution islamique aussi dans son discours a dit que les États-Unis en fait s'alimentent, si vous voulez, des crises. Qu'est-ce que vous en pensez?
Oui, c'est vrai qu'ils s'alimentent des crises. Ils pourraient vivre d'ailleurs sans. Mais ils sont les États-Unis. D'abord, sont-ils... Je parle des hommes d'affaires américains. Est-ce qu'ils sont véritablement maîtres de leur situation aux États-Unis? Ça serait à voir. Est-ce que les États-Unis, en somme, sont maîtres chez eux, maîtres de leur politique étrangère? Vous savez, on parle toujours nous parlons nous-mêmes, disons, depuis, en parlant avec vous à la radio, depuis des années, des néoconservateurs américains. Ces néoconservateurs américains, faut-il le rappeler, ne sont pas à prendre au sens ordinaire du terme, comme des réactionnaires. Non, ce sont des trotskistes, c'est-à-dire des gens qui prônent la révolution permanente, c'est-à-dire l'agitation permanente. Il y a, bien sûr, comme l'a dit M. Cornu, il y a les intérêts du lobby industriel, bien sûr, lobby de l'armement. Mais je pense qu'il y a plus que cela. Malheureusement, plus que cela, il y a une idéologie qui utilise les États-Unis d'Amérique exactement comme elle utilise d'autres nations, voyez-vous, pour pouvoir maintenir dans le monde, alors là, cette instabilité, et afin de couvrir leurs propres crimes. Bien, je ne veux pas insister, vous savez, en Orient, comment la situation se présente. Je dirais même que, puisque nous n'avons que quelques minutes, que dans la stratégie sioniste, je crois que la stratégie sioniste consiste à, trouver un appui, à avoir les mains libres en Orient et à apparaître, disons, comme une sorte d'équilibre entre les États-Unis et la Russie. Je crois que là, c'est un danger très, très grave pour l'Iran même. C'est-à-dire qu'il est fort possible qu'on dérive la colère, pas la colère, le conflit, on peut dire larvé, enfin, visible entre les États-Unis et la Russie, on le dérive, disons, vers des concessions, voyez, qui soient, hostiles, enfin, aux intérêts des peuples orientaux, en particulier du Liban, de la Syrie et de l'Iran. Et je crois que je crois qu'il ne faut pas oublier, disons, ce que j'appellerais le front moyen-oriental dans cette affaire-là. Ce n'est pas une simple affaire d'une querelle de deux nationalités, c'est-à-dire l'Ukraine et la Russie. Il y a derrière, c'est ce qu'a voulu dire, merci, à mon avis, le guide suprême, une stratégie internationale.
Merci infiniment, M. Pierre Dortiguet, d'avoir été avec moi au téléphone pour cette émission depuis Toulouse. Mes vifs remerciements vont également à vous, M. Bernard Cornu, d'avoir été par Skype avec moi pour cette émission depuis Paris. C'est la fin de l'émission d'aujourd'hui. Merci infiniment de l'avoir suivi. Je vous souhaite à vous toutes et tous une excellente journée. Je vous dis au revoir, amis, et à très bientôt.
Et la pratique des courants takfiristes. Au Mali, la France a été victime de son arrogance, de son comportement haineux
est belliqueux. C'est la mission inaccomplie. La France se prépare à rappeler ses troupes à la maison sans qu'elles aient atteint leurs objectifs. Au contraire, la situation s'est détériorée depuis leur arrivée, constate amèrement le journaliste Ferdinand Boumi. La France s'apprête à tourner une page au Sahel. Ce lundi se réunissaient les ministres de la Défense des pays concernés par la lutte antiterroriste au Mali. À la veille du sommet entre l'Union européenne et l'Afrique, Emmanuel Macron réunira à Paris les dirigeants européens et africains engagés dans le combat anti-djihadiste. Ainsi se décidera dans les jours à venir le destin des quelque 5100 soldats de l'opération Barkhane et des 900 engagés dans la force européenne Takuba. Toutefois, à Paris comme à Bruxelles, la décision semble déjà actée. Barkhane, qui porte militairement l'effort anti-djihadiste au Mali, devrait s'en aller. Cela prendra le temps qu'il faudra, explique-t-on à l'Élysée. Mais c'est effectivement plus une question de jours que de semaines. Un départ qui ne semble pas attrister grand monde au Mali, où les manifestations pour le départ de la France se multiplient. Vous savez, quand quelque chose ne marche pas, ce n'est pas la peine d'insister. Tout le monde a compris que l'échec de la France aujourd'hui dans le Sahel est visible. Cette politique néocolonialiste ne peut pas continuer, explique au micro de RFI l'un des organisateurs d'une manifestation pour le départ de la France. Pour le journaliste gabonais Ferdinand Boumi, directeur de publication de Mir Magazine, ce mépris est la résultante d'une politique française catastrophique au Mali. Contrairement à ce que laisse penser la diplomatie française, Paris n'est pas poussé vers la sortie du continent par la Russie, estime-t-il au micro de Spoutnik, loin de là. Elle est victime de son incapacité depuis des années à éradiquer les phénomènes qui gangrènent la sous-région du Sahel. Par exemple, malgré les moyens conséquents mis en jour par le contribuable français, le terrorisme, les bandes mafieuses et le crime organisé sont toujours présents, rappelle-t-il. En effet, la situation sécuritaire régionale n'est pas améliorée après 8 années d'engagement militaire de la France. Et ce, malgré quelques francs succès tactiques des forces françaises. Pas plus tard que ce 10 février, la force Barkhane a tué 40 djihadistes impliqués dans des attaques meurtrières au Bénin. Mais malgré les efforts des militaires français, la gangrène terroriste s'est diffusée. Alors qu'elle ne concernait initialement que le Mali, le Niger et le Burkina Faso voisin, la menace s'étend aujourd'hui à l'ensemble de la région et elle est devenue problème pour les pays du Golfe de Guinée jusqu'au Bénin, Togo, Côte d'Ivoire. Force est de constater, au regard de ce tableau sombre, qu'il y a une réelle déception au sein des populations africaines, poursuit le journaliste. Une déception qui, au fil du temps, se transforme en un ras-de-bol de la politique française, a-t-il précisé. Les populations, constatant que leur quotidien se dégrade, voit d'un mauvais œil la prolongation de la présence militaire française dans la plupart des pays africains, tout en soutenant les autorités en place dans leur volonté de diversifier des partenariats avec d'autres acteurs dans l'espoir de rendre plus efficace le combat contre les groupes terroristes. En définitive, l'incapacité de Paris à apporter la paix pour laquelle elle a pourtant été missionnée est la principale raison de cette hostilité sahélienne à la présence française. La paix est la principale attente des populations africaines dans les pays en conflit. Aucun développement n'est possible dans ces pays sans la paix. Aussi, l'escalade verbale et médiatique de ces derniers mois entre la France et le Mali, qui, du point de vue des journalistes et des analystes, n'honore pas l'image de la France, vient aussi réveiller chez les populations la fibre patriotique, ajoute le journaliste gabonais. Les propos de Jean-Yves Le Drian, considérant le gouvernement malien comme illégitime et hors de contrôle, qui ont déjà provoqué l'expulsion de l'ambassadeur français, ont été mal accueillis par la population malienne et les peuples voisins. Une diplomatie dénoncée jusqu'à Paris. On a un ministre des Affaires étrangères en France qui fait des déclarations à l'emporte-pièce qui nous valent l'expulsion de notre ambassadeur, probablement le meilleur qu'on avait dans cette région. Le Drian persiste et signe à l'Assemblée nationale en réitérant ses propos. Pour qui se prend-il ? Interrogé un ex-diplomate avec lequel Spoutnik s'est entretenu. La France est donc victime de son arrogance, de son comportement haineux et belliqueux, estime le journaliste gabonais. Une diplomatie bien éloignée de celle vantée par François Mitterrand dans son fameux discours de la Bolle, qui invitait les pays de l'Afrique à lancer un processus de démocratisation. Dans ce discours, bien connu des Africains, qui s'inscrivait dans un contexte post-guerre froide, le président socialiste s'attachait à réaffirmer que la démocratie est un principe universel. Toutefois, précisait-il, il ne faut pas oublier les différences de structure, de civilisation, de tradition et de mœurs. Il est impossible de proposer un système tout fait. La France n'entend pas intervenir dans les affaires intérieures des États africains. Mais pour nous, cette forme subtile de colonialisme qui consisterait à faire la leçon en permanence aux États africains et à ceux qui les dirigent est une forme de colonisation aussi perverse que tout autre. Si lointaine soit-elle, cette histoire du colonialisme et du néocolonialisme n'est pas étrangère à l'actuel sentiment anti-français au Mali, affirme le journaliste gabonais. Des années 1960 à la prononciation de ce discours en 1990, la France a soutenu ou renversé d'innombrables dirigeants africains au gré de ses intérêts. Pendant très longtemps, la France était intouchable, imperturbable chez elle, dans ses anciennes colonies. Il n'y avait aucune concurrence. Il fallait obtenir, au préalable, un accord pour justement y mettre pied. Il n'y a eu aucun effort pour changer de paradigme, même après 1990. Elle a cru contrôler la situation, même après la fin des blocs, a-t-il expliqué. Cette volonté de conserver une influence politique importante en Afrique francophone, fer de lance de la puissance française à l'international, est également responsable de ce mépris envers Paris. L'échec politique et militaire de l'intervention française au Sahel est une conséquence logique, estime le journaliste gabonais. À cela s'ajoute une réelle rancune des populations de la région envers la France pour son intervention en Libye et le renversement de Muammar Kadhafi. L'intervention qui a semé le discorde qui secoue la région depuis une décennie. Comme le résumait le président du Niger, nous, sahéliens, subissons les conséquences de l'intervention en Libye. Un bilan regrettable au regard des 58 militaires français qui ont laissé leur vie au Sahel.